Journaliste et historien, Claude Harpy vit en Inde depuis 30 ans dans la ville internationale d'Auroville. Il est le directeur du pavillon tibétain. Il a consacré ces dernières années à l'étude approfondie de la culture tibétaine et indienne. Dans cette interview, Claude nous présente le pavillon de la culture tibétaine à Auroville et revient sur quelques faits historiques de ce peuple. Bonjour Claude. Pour commencer, on va peut-être simplement introduire le lieu sur lequel on se trouve aujourd'hui.
Au pavillon tibétain, c'est dans la zone internationale d'Auroville. Auroville a quatre zones, une zone internationale, une zone culturelle, une zone industrielle et une zone résidentielle. Et dans la zone internationale, pour le moment, il y a deux pavillons. C'est des pavillons de la culture des pays, dont un pavillon de l'Inde et le pavillon du Tibet. Là, on se trouve au pavillon du Tibet.
Qu'est-ce qui t'a amené ici, Claude ? Toi, tu es venu à Auroville à quel moment ?
Je suis venu en 74, on est venu par une caravane, 35 personnes ensemble, avec un gros bus Mercedes et trois camionnettes, et on a fait la route, ce qu'on appelait la route, et on a mis 2 mois et demi pour venir. On est parti en octobre, début octobre, et on est arrivé vers Noël, ou vers le 20 décembre 74.
Avec 34 Français dans la caravane?
Non, il y avait 2 ou 3 Allemands, je crois aussi. Mais la plupart Français, oui.
Par voie terrestre?
Par voie terrestre, oui. Par la Yougoslavie qui n'existe plus, la Bulgarie, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, maintenant, il ne fait pas très bon voyager, Pakistan, et puis l'Inde, on a traversé toute l'Inde, voilà.
Mais au départ, l'idée était de venir ici, à Auroville. C'est oui. Pas sur le chemin, on s'est dit, tiens, on va se poser ici.
Non, on avait tous décidé de venir à Auroville, mais il y en a qui voulaient juste voir, avoir une idée. Donc il y en a beaucoup qui sont repartis. Peut-être on est 7 ou 8 ou 9 qui sont encore là.
J'aimerais quand même que tu me présentes un peu Auroville pour ceux qui vont nous entendre sur les radios françaises.
Ah ben, présenter Auroville, c'est un peu, en quelques mots, c'est pas facile. Ça, Auroville, c'était une sorte d'utopie qui a commencé en février 68. Il y a des jeunes qui sont venus de 5000 jeunes qui sont venus d'un peu partout sur la planète et qui représentaient 123 pays. La cérémonie d'ouverture était organisée par l'UNESCO. Et ces jeunes, un couple, ont amené de la terre de leur pays et ont mis cette terre dans une urne qui est au centre de la ville d'Auroville. À ce moment-là, c'était un désert, hein, c'était au milieu d'un désert, cette cérémonie d'ouverture. Et ça symbolisait l'unité humaine. Et l'idée, c'est de construire une ville avec tous les... une participation de tous les pays. Donc l'idée d'Auroville, c'était de faire une ville tous ensemble où personne, il n'y aurait pas d'hiérarchie, personne ne dominerait l'autre, c'est tout. C'est pour ça, c'est ironique quelque part qu'on n'a pas le pavillon de la Chine, mais on a le pavillon du Tibet à Auroville, voilà.
Alors comment le pavillon du Tibet s'est construit? Quelle a été l'origine du projet? Pourquoi avoir mis un pavillon tibétain ici?
La mère qui a été la fondatrice d'Auroville, qui était la collaboratrice de Sri Aurobindo, qui habitait à Pondichéry, à l'ashram, qui était responsable de l'ashram, avait écrit ce texte dans lequel elle parle de pavillons, de culture de chaque pays pour Auroville. Donc moi, comme j'étais déjà branché, quand j'étais en France, j'étais branché sur le problème tibétain, j'ai décidé de faire ce pavillon avec d'autres, bien entendu. Et on a reçu le soutien du Dalai Lama, du gouvernement en exil à Dharamsala et d'autres, pour faire ce pavillon de la culture tibétaine à Auroville. Voilà.
Alors tu disais, tu étais déjà branché culture tibétaine. J'aimerais qu'on refasse un petit peu l'histoire du Tibet. Donc je sais qu'en 1959, la Chine a envahi le Tibet. Est-ce que tu peux me brosser ce qui s'est passé de 59 à aujourd'hui?
C'est pas en 59, c'est en 1950 que les troupes chinoises sont entrées au Tibet. Pendant 2 millénaires, le Tibet était un pays libre et complètement isolé, en fait. En fait, assez paradoxalement, c'était un des seuls pays indépendants d'Asie et d'Afrique. Alors que l'Inde a été occupée par les Britanniques, la Chine a été occupée par divers, par les Japonais et d'autres puissances occidentales, le Tibet était libre, mais le Tibet était isolé. Et quand la Chine de Mao Tse-tung est arrivé au pouvoir le 1er octobre 1949, quelques mois après, il a déclaré, on doit libérer le Tibet. Alors libérer, les gens ne comprenaient pas très bien ce que ça voulait dire, ils ne comprennent toujours pas après 60 ans, ou 65 ans, libérer, ça voulait dire envahir, et donc les troupes chinoises ont envahi le Tibet, et ça a créé pour l'Inde de nombreux problèmes, parce que l'Inde et le Tibet avaient été voisins pendant deux millénaires, et il n'y a eu jamais aucun problème de friction ou de conflit. Et tout d'un coup, une autre idéologie, l'idéologie communiste, est arrivée comme voisin de l'Inde, donc ça a créé des problèmes qui, ça a résulté par une guerre en octobre 62. Et en 59, après 9 ans d'occupation, la pression est devenue tellement forte à Lhasa pour les Tibétains qui vivaient là, que le Dalai Lama a dû quitter le Tibet et s'enfuir et prendre refuge en Inde. Nehru, le premier ministre indien, lui a donné refuge en fin mars, début avril 59. Donc depuis ce moment-là, le Dalai Lama vit à Dharamsala dans le nord de l'Inde.
C'est le seul pays qui a un gouvernement en exil comme celui-là sur Terre ?
Ils appellent un gouvernement en exil, mais il n'est reconnu par aucun pays pour le moment. Mais disons que c'est une administration qui s'occupe des réfugiés, des 150 000 réfugiés, qui a surtout en Inde, pour peut-être 85-90%, et aussi en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France. Donc ce gouvernement, où cette administration s'occupe de leur bien-être et des affaires religieuses et préserve la culture tibétaine. Surtout, ils ont aidé à construire de nouveaux monastères. Tout ce qui ne pouvait plus être fait au Tibet du fait du régime communiste a été un peu transféré ici en Inde, dans le sud de l'Inde en particulier, où il y a de nombreux monastères.
Est-ce qu'on peut parler d'occupation illégale du Tibet par la Chine aujourd'hui ?
Je ne veux pas commenter de politique, mais oui.
Et quand on... Parce que c'est une question que je me pose souvent quand on rencontre des Chinois en voyage, donc je ne parle pas politique, mais juste des Chinois voyageurs, et qu'on leur pose la question du Tibet, on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout au courant de l'histoire du peuple tibétain.
C'est un fait, ils ne sont pas au courant. C'est que la propagande du régime, même s'il y a eu beaucoup d'ouverture du fait des microblogs et des sites internet, dont beaucoup sont interdits quand même, hein, dès qu'on touche un peu des problèmes comme Taïwan, le Tibet, les blogs ou les sites sont interdits. Mais le fait est que maintenant ça fait, le Dalai Lama est arrivé en 59 en Inde, ça fait 54 ans, le Chinois aujourd'hui en Chine ne sait pas ce qui s'est passé au Tibet et pense toujours que le Tibet a toujours fait partie de la Chine. Et des fois on a des visiteurs, des touristes qui viennent ici, mais ils disent pourquoi ça devrait être le pavillon de la Chine et vous devriez avoir une pièce ou deux pour le Tibet. Ils ne comprennent pas très bien. Donc c'est tout l'effet de propagande, et ça c'est très difficile à changer. Le Dalai Lama, au cours de ses voyages, il rencontre beaucoup de jeunes Chinois. Chaque fois qu'il a l'occasion, des universitaires chinois, pas des hommes politiques, mais des scientifiques chinois, des étudiants chinois, il essaie de leur expliquer que c'est pas exactement comme ça, mais bon, c'est la propagande est tellement forte encore aujourd'hui en Chine, c'est en train de changer très rapidement, mais le fait est que les Chinois pensent que le Tibet a toujours fait partie de la Chine et que ça leur appartient, c'est tout.
As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free. One day, one day, one day. And if you can see it in your mind, there's no stopping what will picture and know it's true. Tibet will be free. Tibet will be free.
Aujourd'hui, on va au Tibet. Quelle est la situation? Quelqu'un me disait qu'il y a 10 Chinois pour un Tibétain. Est-ce que tu as un petit peu des chiffres? Est-ce que tu sais aujourd'hui comment vivent les Tibétains en Chine? Enfin, au Tibet?
Non, j'ai pas. J'ai été une fois au Tibet en 93, donc j'ai pas d'informations de première main. Mais bon, les chiffres, on dépend des chiffres chinois. Alors, ils disent qu'il n'y a pratiquement pas de Chinois au Tibet, parce qu'ils ne comptent pas dans leurs statistiques tous ceux qui sont là pour 5 ou 10 ans. Ils vont compter que ceux qui sont là d'une façon plus permanente. Mais donc, leurs chiffres, leurs statistiques ne veut pas dire grand-chose. Mais tous ceux qui ont été au Tibet ont vu quand même qu'il y avait la population chinoise, surtout dans les grandes villes comme Lhasa ou Chigatse, ou Yangtze, est beaucoup, beaucoup plus importante que la population tibétaine. Et ça c'est uniquement pour la région autonome du Tibet, mais dans tout le reste du Tibet qui a été englobé dans les provinces de Qinghai, Gansu, Sichuan et Yunnan, alors là, c'est une très très forte majorité chinoise, Han, qui des migrants, qui sont venus de la Chine intérieure et qui ont émigré au Tibet. Donc, ça, en fait, c'est sans doute ce que voudrait faire la Chine, c'est changer la démographie.
Les Tibétains qui sont là-bas aujourd'hui au Tibet continuent à vouloir passer la frontière et venir en Inde ou au Népal, ou est-ce que c'est possible déjà de pouvoir sortir du Tibet aujourd'hui pour les Tibétains?
Je crois que c'est très difficile aujourd'hui. Depuis un an ou deux, c'est pratiquement impossible. Ça se compte sur les doigts d'une main, de deux mains, disons. Le nombre de Tibétains qui ont réussi à passer l'année dernière. Donc c'est pratiquement fermé la frontière.
Et la diaspora tibétaine, on a des chiffres, donc ils sont quand même. C'est peut-être une chance finalement pour la culture tibétaine d'avoir autant de Tibétains en dehors du pays.
Ben oui, aujourd'hui, certainement. Et le fait que le Dalai Lama soit en dehors, il a pu propager la doctrine bouddhiste, toutes ses vues sur la non-violence et sur. Ce qu'il appelle la responsabilité universelle. Et aussi, ces dernières années, il a beaucoup parlé des ressemblances qu'il y a entre la science et le bouddhisme. Il voit un peu le bouddhisme comme une science. Donc, il a rencontré très régulièrement des scientifiques occidentaux et indiens et a discuté avec eux, a eu un débat avec eux pour voir quels étaient les points où la science et le bouddhisme pouvaient se rencontrer. Donc c'est très intéressant. Et puis bon, ça ne peut pas se passer au Tibet, bien entendu.
Ok, j'en reviens un peu ici à Auroville et à ce pavillon tibétain. Qui c'est qui va venir ici? Et puis quel est un petit peu le... Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici au pavillon tibétain à Auroville?
Le pavillon tibétain, tout d'abord, ce n'est pas un temple. Hein, ce n'est pas un lieu. Parce que la mère, la fondatrice d'Auroville, a dit qu'il n'y aurait pas de religion à Auroville. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un jour une mosquée, un jour un temple, un autre après. Parce qu'elle a dit que les religions ont toujours été divisibles, ont divisé l'humanité dans l'histoire. Donc, c'est pas un temps, mais il y a beaucoup d'autres aspects de la culture tibétaine. Par exemple, on a depuis 15 ans, on a un docteur tibétain qui vient absolument régulièrement, et non seulement pour les Auroviliens, mais aussi pour les gens de Pondy et d'ailleurs qui viennent le consulter. On a une bibliothèque, on montre des films sur la culture tibétaine, on a beaucoup d'échanges d'étudiants qui viennent ici, non seulement des étudiants tibétains, mais aussi des étudiants, par exemple, on a deux ou trois groupes d'étudiants américains qui viennent tous les ans, et des fois des Coréens, d'autres nationalités, et qui restent au pavillon pendant une semaine ou deux semaines, qui font des stages soit de yoga ou de méditation, différentes choses, et qui peuvent voir les expositions qu'il y a sur la culture tibétaine. On a une exposition permanente sur l'histoire du Tibet, et qui peuvent un peu apprendre ce qui s'est passé au Tibet et surtout ce que c'est que l'essence de la culture du Tibet. Voilà.
Aujourd'hui, quand tu parles du Tibet aux Tibétains, quel est le sentiment général? Est-ce que les Tibétains veulent retrouver leur pays? Est-ce qu'il y a un espoir possible? Quel est l'avenir, tu crois, pour les Tibétains en exode? Et quel est l'avenir du Tibet?
Ça, je ne vais pas... C'est trop difficile, personne ne sait vraiment. Une fois, je me souviens, dans les années, à la fin des années 80, le Dalai Lama avait fait une prédiction. Il avait dit, dans 5 ans, le Tibet, quelque chose va se passer, le Tibet sera libre, parce qu'il avait vu ce qui s'était passé en Union soviétique, qui s'était un peu écroulé, puis tous les anciens états de l'Union soviétique, beaucoup d'entre eux étaient devenus indépendants. Et puis rien s'est passé en Chine. Hein. Il avait fait une prédiction un peu semblable. Et alors je lui ai demandé un jour au cours d'une interview et il m'a dit je me suis complètement trompé. Il s'est mis à rigoler et il arrêtait de pas de rigoler. Je me suis dit complètement trompé. Mais il a dit c'était pas une prédiction comme en font des fois les lamas tibétains en consultant des déités ou en rentrant en méditation et tout ça. Il dit c'était juste je regardais ce qui s'était passé en Union soviétique et je pensais que la même chose allait se passer. Donc ça c'était vers 89-90, hein, et rien ne s'est passé au Tibet. Alors il y en a beaucoup qui prédisent que la Chine va s'écrouler et tout ça, mais bon, la Chine a d'énormes problèmes, des problèmes de corruption, des problèmes, et en ce moment les nouveaux dirigeants, Xi Jinping en particulier, tous les jours dans tous ses discours il parle de la corruption en Chine. Il y a des problèmes de différence de niveau de vie entre certaines régions intérieures et les régions côtières. Il y a des différences avec ce qu'ils appellent les minorités, c'est-à-dire les Tibétains, les Ouïghours, les Mongols, et c'est des problèmes très très sérieux. Donc la Chine aujourd'hui fait face à des problèmes incroyables, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement elle va s'effondrer. Peut-être les dirigeants et la nouvelle équipe qui va prendre le pouvoir la semaine prochaine, peut-être aura la sagesse d'essayer de résoudre les problèmes d'une façon où tout le monde est content par la force. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours essayé de résoudre les problèmes par la force, mais ça n'a pas marché, que ce soit pour le Tibet ou pour les autres problèmes. Donc, Et comme je disais avant, il y a aujourd'hui en Chine, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas contents avec le gouvernement et qui l'expriment à travers les blogs et à travers les sites internet, qui sont immédiatement interdits après quelques heures, hein, souvent. Mais le fait est que y a aujourd'hui, même les statistiques de l'Académie des sciences chinoises a montré il y a une semaine ou deux que les gens en Chine n'avaient plus aucune confiance dans le gouvernement chinois. Donc c'est un problème sérieux et je pense que les nouveaux dirigeants s'en rendent compte. Donc il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour ça.
Est-ce qu'il y a un parti pris de la communauté internationale par rapport à la situation du Tibet ? Est-ce que les pays se prononcent sur cette situation ou pas ?
Bah, les Chinois disent qu'il y a un parti pris que le problème tibétain n'existe parce que la communauté internationale pousse par derrière et essaie d'instiguer les Tibétains à se révolter. En même temps, la communauté internationale ne fait pas grand-chose, hein, parce que le gouvernement en exil, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est reconnu par aucun gouvernement. Si on reçoit le Dalai Lama, on le reçoit par derrière. Quand Dalai Lama a été reçu il y a trois ans par Barack Obama, et on l'a fait rentrer par la cuisine. Hein. Il y a eu des photos qui ont été publiées. Dalai Lama, il ressort, il y a toutes les poubelles de la, et donc, il est jamais vraiment reçu officiellement. Si demain il va en France, François Hollande va pas le recevoir sur le perron de l'Élysée. De même, le premier ministre français, qui avant, il y a quelques années, mettait le drapeau tibétain sur la mairie de Nantes le 10 mars. Maintenant, il ne reçoit plus le Dalai Lama. Donc, les gouvernements occidentaux, ils ne font pas grand-chose non plus. Hein.
Pour ne pas froisser le gouvernement chinois ?
Ben oui, parce que c'est des... c'est... L'Europe est en déclin économique et a besoin de l'Asie. Donc, le président Hollande était à Delhi il y a deux semaines. Et il a appelé à tous les industriels indiens à venir investir en France et il a demandé aux industriels français d'investir en Inde. Parce que c'est la seule chance qu'il voit qu'on puisse sortir de la rigueur et de la récession. La Chine et l'Inde sont des gros marchés potentiels. Donc, on va pas froisser. Bon, l'Inde, ça n'a pas beaucoup d'importance politique, mais on ne va pas froisser la Chine. Ouais.